Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation, le premier média qui décrypte la réalité des métiers et du monde professionnel pour t'aider à trouver ta voie. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Cette semaine, on part à la rencontre de Louis Lemuel, le Head of Talent Acquisition de BAMTech. Après une classe préparatoire et HEC, Louis fait son entrée dans la vie professionnelle en créant sa start-up. 2 ans et demi plus tard, il met fin à cette aventure et part à la recherche d'un CDI. Soucieux d'avoir un job dans une entreprise en croissance où il sera certain d'apprendre et sur un sujet qui lui plaît, Louis rejoint finalement BAM en tant que business developer coach agile. BAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence, filiale du groupe M33 dont fait aussi partie Théodo et Sipios, de conseil digital spécialisé dans le développement de solutions mobiles pour ses clients. Louis a rejoint BAM il y a 2 ans et depuis ses débuts, il est passé de coach agile à mi-coach agile, mi-recruteur pour finalement se consacrer à plein temps à son poste de talent acquisition. Cet épisode est absolument passionnant pour découvrir l'importance du recrutement, la découverte de ce métier que Louis n'envisageait pas du tout et qui est en fait une véritable passion, et la mentalité de BAM qui met un véritable point d'honneur à faire de son recrutement une véritable expérience pour ses candidats. J'espère que cette interview t'aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière le job plus que stratégique de recruteur et qui sait, suscitera chez certains d'entre vous des vocations. Bonjour Louis.
Hello.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ouais. Un peu dans le cœur de cette interview, je voudrais te poser une petite question préliminaire. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Écoute, quand j'étais vraiment petit, je voulais être commissaire-priseur. Donc, alors pour ceux qui ne voient pas, c'est la personne qui fait le clown avec le marteau pendant les ventes aux enchères. parce qu'en fait, je trouve toujours d'ailleurs que c'est un secteur passionnant. Traîner autour de Dro, c'est rempli de personnages hyper hauts en couleur. Enfin, c'est vraiment... voire parfois un peu givré, mais c'est vraiment très sympa. Mais on m'a fait et aidé à réaliser que c'est pas vraiment le secteur le plus porteur au monde, surtout en ce moment. Et donc, du coup, je me contente d'aller traîner un peu du côté de Dro de temps en temps et de suivre de loin.
Et donc, qu'est-ce qu'on t'a amené à réaliser que c'était pas porteur, mais pour faire quoi ? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours académique dans un premier temps et pour arriver à ton premier job ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bac général, bac S. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais pas trop mauvais en classe, donc on m'a suggéré d'aller en prépa. Je me suis dit ça va me laisser des portes ouvertes, et donc j'ai fait ça et j'ai intégré HEC derrière, et là parcours somme toute assez classique finalement.
Et au moment de choisir tes premiers stages et ensuite ton premier job, comment est-ce que tu t'es spécialisé ? Enfin, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as pris le premier job venu ? C'était quoi ?
Alors, au départ, moi, je me suis pas mal intéressé à la manière dont on peut construire un discours créatif qui sert un objectif business. Mmh. C'est une manière compliquée de dire de la pub. donc, du coup, j'ai fait ma césure dans la pub. Et ça a pas matché, en tout cas, avec ce que je voulais faire, ce que... Puis même le métier en fait en lui-même me faisait pas vibrer. Et donc du coup, je suis parti en échange. Et le gros avantage de l'échange, c'est que tu as du temps. Et pendant ce temps, avec un associé, on a commencé à réfléchir à des projets de boîte. Et en sortant d'école, au final, on est parti un peu la fleur au fusil pour monter notre boîte.
Ok.
Voilà. Donc le premier job qui passait, c'est le premier job que j'ai créé.
Ouais.
et après, alors je sais pas si tu veux qu'on parle tout de suite de BAM, mais.
Peut-être pour remettre un peu le contexte et te connaître un peu mieux. Ouais. En quelques mots, du coup, la boîte que tu as créée, le pitch.
Le pitch, très rapidement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Très, très rapidement, c'était de permettre à des marques de récolter des datas et surtout des avis. Auprès de notre communauté d'utilisateurs de manière super rapide. Ça pouvait être pour des tests de produits, tests de visuels, même études éventuellement sur les comportements d'achat ou de consommation. Et voilà. Et c'était basé sur une application mobile avec un back-office.
Du coup, donc, tu as bossé combien de temps dessus et quel était un peu ton rôle dans ta boîte pour comprendre après la prise de décision de « en fait, j'arrête et je vais chercher du boulot ».
On a bossé 2 ans et demi dessus, donc hyper long. En fait, il s'est passé, on a perdu énormément de temps. On a développé une première version qu'on a finalement scrappée pour en développer une seconde. On a fini par lever un peu de love money. Il s'est passé énormément de choses. Mais au final, la décision d'arrêter finalement n'a pas été très compliquée. Dans le sens où à un moment, il faut se rendre à l'évidence que ça ne marche pas, ou du moins, ça ne permettait pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés.
Ouais.
En fait. C'est-à-dire que ça pouvait éventuellement vivoter. Mais voilà, on avait un peu plus d'ambition que ça pour ce projet, ou pour nous-mêmes peut-être. Et du coup, on a pris la décision voilà, d'arrêter.
Ok, très clair. Est-ce que, donc, première aventure entrepreneuriale, ouais. Et ensuite besoin de retourner dans le monde du salariat.
Il a fallu trouver un taf honnête, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé à chercher, en fait, en me disant que, bah, de toute façon, visiblement, en plus, il m'avait manqué pas mal de choses pour réussir aussi dans mon aventure entrepreneuriale. Et j'ai avant tout cherché une boîte dans laquelle je pourrais apprendre plein de trucs. Et je suis dans mes recherches tombé assez rapidement sur BAM. Et en fait, ce qui m'a énormément plu chez BAM, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'ai une vraie grosse appétence pour les produits mobiles. Ma boîte était une app. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il n'y a pas de support plus susceptible d'amener de l'innovation. Et dans mobile, j'inclus, parce que c'est quelque chose qu'on regarde aussi, j'inclus les wearables, type montres, lunettes, éventuellement, avec des choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Je voulais rejoindre une boîte qui cartonne, deuxième truc, donc en forte croissance, remplie de gens ambitieux, que je trouvais smart. Et puis en plus, si tu veux, pendant mes entretiens, j'ai vachement apprécié mes échanges et les entretiens que j'ai eus avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, où j'ai appris plein de choses aussi sur moi et la vision qu'ont Baptiste et Marek encore aujourd'hui de BAM. Moi, c'est quelque chose qui pour le coup me fait vibrer, quoi.
Ouais, et pour reprendre un peu ton choix, du coup, tu me disais, donc, je veux une boîte en croissance dans laquelle je vais apprendre. Tu disais que c'était un peu une évidence, mais comment est-ce qu'elle s'est présentée à toi ? Est-ce que tu avais d'autres pistes, par exemple des startups ou d'autres structures complètement différentes du modèle agence de BAM ? Pourquoi ? Comment
alors,
ça s'est fait ?
Ouais, j'avais pas mal écumé Welcome to the Jungle quand même, mais j'étais en process. J'ai oublié le nom. Ils ont été rachetés par Solocal. Ils étaient à Boulogne. On pourrait faire. Je suis. Non, mais bon, bref, j'ai oublié le nom. Et BAM, en fait, BAM, je déjeunais avec une amie qui m'avait dit tu devrais t'inscrire sur Illinois. Ouais. Je sais que vous avez eu Héloïse en plus. C'est Héloïse qui m'a fait rentrer, que vous avez eu sur le podcast, qui m'a fait rentrer chez BAM.
Parfait.
Il y a trois ans, donc, presque trois ans maintenant. Et du coup, je me suis inscrit et très vite, on m'a proposé ça. Puis j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que je connaissais en plus qui étaient dans la boîte. Et en fait, bah, je suis allé aux entretiens pour découvrir un peu. Et le poste m'a énormément plu parce que ça alliait vraiment énormément de choses de comment développer une application, vraiment avoir une vision super produit et une vision beaucoup plus biz dev par la suite, que ce soit en recrutement, en sales, en market, voilà, selon les besoins de la boîte.
Oui, très bien. Bah, justement, est-ce qu'on peut replacer le contexte un peu de BAM,
ouais,
pour que tu me réexpliques un peu ce que fait l'entreprise, un peu la proposition de valeur. Donc, tu l'as abordé un peu entre les lignes jusqu'à présent. Mais tu vois, quelques chiffres clés de l'organisation, ouais, pour comprendre même un peu comment ça évolue
yes,
comprendre un peu BAM, c'est quoi comme entreprise aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, pour mettre vraiment le contexte, aujourd'hui, BAM, on est une boîte de services dans la tech et on spécialise dans le développement d'applications mobiles en agile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que notre métier, il y a trois volets. On aide nos clients à identifier une opportunité business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tech, c'est un outil pour résoudre des problèmes. Une fois qu'on a identifié avec le client cette opportunité, on va concevoir, donc avec nos designers UX/UI, et développer avec les développeurs et les ingénieurs, le produit tech qui va permettre d'adresser cette opportunité. Et derrière, il y a tout un volet aussi de transmission des bonnes pratiques, qu'elles soient tech en termes de qualité du code, qu'on transmet souvent aux équipes techniques du client, ou les bonnes pratiques méthodologiques, puisqu'on fait énormément de lean, on est très pointu sur l'agile et on fait évoluer souvent très, très régulièrement notre modèle.
Est-ce que tu peux me définir un peu
Ouais, lean, ça sonne vachement pas concret du tout. L'idée, c'est qu'en fait, l'équipe qui travaille avec le client est composée de deux développeurs, un architecte, l'équipe type. Deux développeurs, un architecte, un coach agile, un designer UX/UI. Et dans cette équipe, on intègre le product owner. La spécificité, c'est que chez nous, le product owner, il vient de chez le client, il est issu du métier, il passe 30% de son temps avec nous.
D'accord.
Et il est décisionnaire. Du coup, et cette équipe-là, en fait, elle fait des sprints d'une semaine. Ça veut dire que pendant toutes les semaines, elle fait le point sur OK, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine et comment on est sûr que justement ce qu'on fait la semaine prochaine résout ou nous rapproche de la résolution du problème business de notre client. Un exemple hyper concret, on travaille avec ADA, donc la location de voiture. ADA, ils sont venus nous voir il y a 2 ans et demi en disant, en fait, on a zéro solution digitale, on est en train de perdre des parts de marché. face ou tous les nouveaux acteurs de la mobilité, Blablacar, oui, enfin, Drivee, j'en passe, c'est des meilleurs, Getaround maintenant. Et en fait, ils sont venus me voir en disant, vous avez 3 semaines pour arriver à déverrouiller une voiture avec un téléphone en Bluetooth. On a réussi à faire ça, et en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse avec eux sur une application qui est en prod et qui aujourd'hui représente, qui permet de louer une voiture ADA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais passer par une agence. Pour ceux qui louent des voitures, le passage par l'agence, c'est... bref. et du coup, mais aujourd'hui, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce truc-là, au-delà de la complexité technique, etc., c'est avant tout le fait que c'est le canal qui représente aujourd'hui 20% des réservations de véhicules d'ADA. Et c'est là où ils sont allés chercher des réservations qu'ils n'auraient pas pu atteindre. Et on les a vraiment aidés à trouver un relais de croissance grâce à la tech.
Et quand tu m'expliques, donc le client, on identifie une opportunité business mm-hmm. pour nos clients. Est-ce que c'est dans le cas de ce que tu viens de m'expliquer avec ADA, le client qui arrive, ok, j'ai une problématique, par exemple, je ne peux pas adresser une partie de mon marché parce que je n'ai pas de solution digitale. Comment ça se passe pour trouver des clients? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous, on a envie d'aller vers le digital et vous allez vraiment faire une étude en mode, voilà ce qui est le plus intéressant, ou plutôt l'inverse avec une mission plus ou moins définie et vous qui allez mettre en place toute la tech derrière?
Le plus souvent, en fait, le premier truc, c'est qu'on ne travaille pas au cahier des charges.
D'accord.
Donc, le client qui arrive en disant, voilà, j'ai ça, la première question qu'on va lui poser, c'est, ok, c'est quoi ton objectif en fait? Pourquoi? Et donc, la partie identifier l'opportunité business, elle arrive plutôt en avant-projet, voire en avant-vente, où l'idée, ça va être le métier du sales, là, pour le coup, d'aller challenger à fond son prospect ou son client pour être sûr que le problème qu'il rencontre, on peut le résoudre avec de la tech déjà, et ça a du sens de le résoudre avec une application mobile. Et c'est là où il y a un vrai accompagnement qui se poursuit après, si jamais le secteur ou le business ou les utilisateurs ou des impératifs venaient à changer au fur et à mesure du projet. C'est là où les cycles d'une semaine nous permettent de nous ajuster en permanence pour justement toujours rester focus sur le business. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet, on a l'impression que je suis monomaniaque, mais si tu veux, c'est ça qui nous permet derrière de faire des produits qui ont de l'impact, dont on est fier, dont les personnes qui bossent chez BAM sont fiers, et qui par ailleurs, et dont les clients sont satisfaits parce que forcément ça résout leurs problèmes, et donc qui nous recommandent, et donc ça nous permet de faire de faire de la croissance. Enfin, c'est hyper vertueux en fait. Tout ce travail en amont du sales, où on pourrait avoir l'impression qu'en fait il va juste essayer de closer, mais justement tout ce travail de challenger pour être sûr que le projet il est cool, ça a énormément, énormément de valeur.
Oui, je comprends bien. Ok, est-ce que tu... Enfin, avant d'entrer sur ton métier et ton évolution chez BAM, juste quelques chiffres sur le nombre de personnes, chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, on est 85 chez BAM. Notre objectif, c'est de faire 10 millions d'euros de sales. On a fait 8,5 en 2019. L'objectif, c'est de faire 10 en 2020. Voilà, pour les chiffres clés, la moyenne d'âge est de 26 ans et demi, 27 ans. Et on est à Paris dans le 17e.
Et donc, comme tu disais, avec différentes entités, donc développement technique, donc architecte, développeur, designer et coach agile, et du coup, sales.
C'est ça. En fait, il y a trois grandes typologies de métiers chez BAM. Il y a les designers, les techs et les bizdev. Alors, dans bizdev, après, qui encapsule pas mal de choses. Le designer, c'est qui? C'est la personne dans l'équipe qui va recueillir le besoin du client, qui va les attentes des utilisateurs aussi, parce que client et utilisateur sont deux personas différents, les contraintes techniques auprès des développeurs pour concevoir l'UX, c'est-à-dire comment le produit fonctionne dans les faits, sur où est-ce qu'on clique, quel est le parcours, et lui, à quoi le produit ressemble, de tous les produits qu'on développe. Okay. Voilà. Ensuite, il y a les développeurs.
Ça, c'est à peu près un tiers de l'équipe ou...
Ils sont une quinzaine. Ensuite, il y a les développeurs, évidemment, les ingénieurs. Eux, ils participent à la conception et ils développent les produits avec nos clients. Leur job, c'est non seulement de produire un code maintenable, de qualité, dans les temps, mais c'est aussi de participer activement à la gestion du projet, au challenge du client, de son business, de ses objectifs et au challenge du designer. Par exemple, si en UX, ce qui a été conçu est hyper compliqué à mettre en place techniquement, en fait, on va essayer de trouver un choix plus pragmatique. Donc, c'est hyper important qu'il y ait ces échanges-là au sein de l'équipe. Voilà. Et après, il y a les bizdev. Bizdev, l'idée, c'est de commencer coach agile. Le job d'un coach agile, c'est de challenger tout le temps. C'est la personne qui est responsable de la satisfaction client et du bon déroulement du projet.
D'accord, donc c'est l'interlocuteur du client?
Non, parce que y a pas de, le client, PO, intégré à l'équipe, peut D'accord. tout aussi bien parler. En fait, il n'y a pas ce côté un peu intermédiaire qui est plus... On considère que c'est plus un téléphone arabe qu'autre chose, quoi. Qui déforme finalement, et que si on a des personnes smart de tous les côtés, en fait, tout le monde peut se parler les uns avec les autres. Et l'idée du coach agile, du coup, ça va de travailler avec le client pour déterminer justement les objectifs business, les affiner, l'accompagner dans la mise en place d'éventuels KPI, et ensuite, de l'autre côté, lever tous les obstacles que peut rencontrer la team. En coachant les résolutions de problèmes et en s'assurant que l'équipe progresse et s'améliore en continu. En donnant de la visibilité au client et à l'équipe sur l'avancement du projet avec des roadmaps, etc. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va réussir ou pas.
Donc ça, c'est le rythme de la semaine, du coup, qui est...
Exactement. Mais avec, après, des visibilités un peu plus lointaines, en se basant sur les estimations. Plus on avance dans le produit qu'on développe, plus on arrive à estimer aussi la charge de travail restante. Donc voilà, il y a ça à mettre à jour régulièrement. Et surtout, en fait, le truc le plus important, c'est d'être monsieur problème. C'est-à-dire, ou madame hein, d'ailleurs, mais monsieur ou madame problème. L'idée, c'est d'être focus sur faire ressortir les problèmes. C'est pas grave d'avoir des problèmes, à la limite, mais il faut les voir. Parce que les voir, ça permet de réagir. Et donc, le coach agile, ce qu'on attend vraiment de lui ou d'elle, c'est justement de faire ressortir ses problèmes pour qu'après, l'équipe puisse les régler.
Et donc, comment tu ressors des problèmes? C'est en discutant avec chaque membre de l'équipe?
Il y a des indicateurs. Il y a par exemple un suivi du delivery, un suivi de la qualité avec un suivi du nombre de bugs. Il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui permettent justement de voir si on est OK ou si on est KO, en fait, tout simplement.
Ok, super intéressant. Et donc toi, c'est là que tu as commencé?
Moi, j'ai commencé coach agile.
Ok, ouais. Donc raconte-moi un peu donc, ton parcours chez BAM. Tu arrives le premier jour, tu es coach agile.
J'arrive le premier jour, je suis coach agile avec très honnêtement peu d'idées de ce que c'est que vraiment un coach agile. Mais effectivement, je l'évoquais à l'instant, c'est le facilitateur dans l'équipe, sur la personne sur qui l'équipe peut compter pour les aider à résoudre les problèmes et à progresser.
Et comment est-ce que tu savais pas à quoi t'attendre et tu savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais du coup, sur ta première mission, comment est-ce que t'as su quoi faire et trouver les problèmes?
En fait, on a su quoi faire parce que tout le monde chez BAM a un coach. Et c'est quelqu'un qu'on peut mobiliser de manière extrêmement intensive, et notamment c'est ce qu'on attend des nouvelles personnes qui nous rejoignent chez BAM, c'est que a priori, si la personne qu'on coach, quand elle arrive, passe pas ses journées entières à nous dire « à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide », c'est qu'il y a c'est un plus gros problème que finalement qu'elle ait des problèmes et que cette personne pose la question. Après, il y a quand même de la formation théorique au début, un onboarding de formation théorique et un moment où tu fais des vie-ma-vie, en fait. C'est-à-dire que tu vas suivre un coach agile expérimenté sur le terrain. Donc voilà, il y a des réflexes qui sont pris. Et l'avantage, c'est que quand tu arrives dans une équipe, il y a des développeurs qui potentiellement aussi, eux, maîtrisent la méthodo, un architecte qui est senior, un designer. Donc en fait, jamais vraiment livré à soi-même. Et puis après, c'est la pratique qui fait que ça rentre. Demander beaucoup d'aide, vraiment mettre à profit les gens qui sont autour de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé chez BAM, en tout cas.
Et donc toi, une fois que tu étais coach agile, tu prends tu es de plus en plus à l'aise,
ouais.
Tu prends tes marques, etc. Comment est-ce que ça s'est passé pour évoluer? Tu m'expliquais, il me semble que du coup, tu peux te mettre aussi sur d'autres sujets chez BAM. Est-ce que tu peux me raconter du coup ton parcours jusqu'à ton métier aujourd'hui, qu'on va décortiquer un peu plus en détail?
En fait, l'objectif de ce poste, c'est de participer à la croissance de la boîte. Business developer, voilà. Et participer à la croissance de la boîte, en fait, ça peut se faire de plein de manières. Ça se fait en recrutement, parce qu'on a une boîte de service, si on veut faire plus de projets, plus de chiffre d'affaires, voire plus de monde, c'est mathématique. Donc ça passe par le recrutement, ça passe par les sales, évidemment, parce qu'une fois que moi j'ai recruté des gens, il faut les staffer Ça passe par le market qui va pouvoir générer des leads pour les sales comme pour éventuellement mon équipe de recrutement en travaillant sur la marque employeur. Mais ça passe aussi par le coach agile, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, coach agile, ton job, c'est de tirer la satisfaction client. Et aujourd'hui, 70% de notre CA, il vient du fait que nos clients sont satisfaits. Donc le coach agile joue un rôle fondamental dans le biz dev de BAM. Parce que justement, notre modèle, c'est des clients satisfaits qui soit prolongent, donc réachètent, soit nous recommandent. Okay. Et derrière, il y a un autre moyen aussi, qui est la partie opération. Où là, c'est beaucoup plus comment, une fois qu'on a cette croissance, où on a recruté les gens qu'on les a recrutés, on les a staffés et on a réussi les projets, comment on structure toute cette croissance sur la partie financière de la boîte. Et après, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a structuré grâce à l'équipe Ops, on peut recommencer en fait. Moi, je peux continuer à recruter, on peut continuer à staffer et ça fait une espèce de cycle comme ça.
Ok, donc tu dis là, moi je peux continuer à recruter, mais on n'a pas encore parlé de ton nouveau poste.
Exactement.
Voilà. Alors, du coup, pour donc ton parcours, donc c'est justement, tu as toutes ces possibilités.
Et j'ai eu l'opportunité de bah de m'impliquer dans l'équipe de recrutement qui, à l'époque, était une équipe de recrutement qui était commune à toutes les startups de M33, qu'on a splitté peu de temps après mon arrivée. Bref. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, c'est, aujourd'hui, c'est un des métiers les plus durs dans la tech, notamment, de recruter. Il y a garder aussi, mais recruter. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je pense que c'est... c'est être au cœur de la croissance de la d'une boîte telle que BAM, en fait.
Donc, en gros,
coach agile et recruteur à mi-temps.
D'accord.
Donc je suis arrivé janvier 2018, j'ai fait grosso modo 6 mois coach agile full time, 6 mois de plus, 5 mois de plus coach agile et recruteur à mi-temps. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de l'équipe globale où il y avait un peu des gens de toutes les startups de M33, on est passé à une équipe chacun pour sa peau. L'idée, une équipe par startup. Et donc, on s'est retrouvé avec énormément d'objectifs. On était deux. Moi, à peine, je commençais à peine à être formé. Et puis, il a fallu aller au charbon. Et donc, on y allait déjà pour commencer. Et a commencé à se dessiner le poste que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en fait, au moment où on a splitté, c'est Baptiste, le CEO de facto, qui est devenu Head of Talent Acquisition aussi, parce que fallait gérer le truc. Et en fait, il l'a jamais caché, mais il m'a dit, voilà, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui reprend ce sujet-là à ma place, qui rentre en équipe dirigeante, en équipe tactique, et puis qu'on travaille ensemble. Et moi, ça m'a bien fait kiffer, cette perspective. et donc, du coup, je me suis débrouillé pour être full-time recrutement, onboarder aussi des nouveaux dans l'équipe, déjà dès le début 2019, jusqu'à ce que, à force de m'être arraché, d'avoir bossé, j'ai été nommé, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, que ça a été, je suis arrivé au poste que j'ai aujourd'hui de manière officielle en septembre 2019, ça va faire un an là.
Tu pourrais m'expliquer concrètement ce que cache l'intitulé de poste Head of Talent Acquisition chez BAM.
C'est un truc un peu fumeux. Non, mais en fait, moi, mon job, c'est quoi ? C'est répondre aux besoins de nos clients en recrutant pour BAM les bonnes personnes pour réussir leur projet. Donc, il faut que les devs soient monstrueux, il faut que les biz devs soient super forts, il faut que tout le monde soit bon, en fait. Parce que ce qu'on vend, c'est du temps passé de personnes, comme beaucoup de boîtes, comme une boîte de conseil. Mais donc ça, c'est fondamental. Concrètement, le job, il faut que j'identifie le besoin de moi, mon client. Mon client, c'est qui ? C'est BAM. Donc, j'identifie le besoin de mon client. J'identifie, ensuite, on creuse pour identifier les bons profils pour répondre à ce besoin. Et puis après, il faut les contacter, les accompagner tout au long du processus de recrutement jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. En fait. En parallèle de ça, dans mon job, j'ai aussi l'aspect management où je les aide à progresser dans leur métier avec des coachings hebdo, plus si besoin. Je challenge leur performance, je suis responsable de leur formation.
Sur ton équipe, du coup.
Sur mon équipe. Mmh. Et bien évidemment aussi de leur transmettre de l'énergie, de les encourager quand c'est dur.
Et donc ton équipe aujourd'hui, c'est combien de personnes ?
On est 4.
Ok. Donc, moi, 3. Ok, et donc si tu devais me rappeler un peu du coup tes objectifs un peu plus, enfin de manière un peu plus concrète que soutenir la croissance.
Ouais. Alors moi mes objectifs, il y a deux volets d'objectifs. Il y a les objectifs de perf. Donc en fait on a des objectifs chiffrés de pour tel trimestre il faut qu'on recrute X développeurs, X designers, X biz dev, etc. Encore une fois c'est parce que si on veut atteindre les 10 millions à la fin de l'année, il faut qu'il y ait des gens.
Il faut
qu'on soit plus bon. Ça, c'est mathématique. Mais aussi de qualité. Alors, c'est un terme qui peut paraître un peu déshumanisé quand on parle de recrutement. Mais en fait, le fait est qu'on a un gros focus sur la réussite des personnes qu'on recrute. Et qu'on a mis en place un truc qui est hyper intéressant, qui est en fait, on suit ce qui se passe entre le recrutement, le moment où entre le process de recrutement et 2, 3, 4 mois après l'arrivée de la personne chez BAM. Et en fait, ça nous permet d'avoir une boucle d'apprentissage hyper intéressante parce que ça nous permet de voir les trucs qu'on avait vus ou pas en entretien. Est-ce qu'on avait sur ou sous-estimé telle ou telle qualité du candidat ou de la candidate, encore une fois. Et donc, c'est des objectifs aussi hyper importants parce qu'en fait, et il en va aussi de la réussite des gens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les gens aussi s'épanouissent et réussissent. Parce qu'en fait, ça n'a rien de recruter pour recruter si la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire, ce n'est pas lié à son ambition, ça n'a pas vraiment de sens. Et après, j'ai un troisième volet d'objectifs qui est qu'en fait, m'assurer que l'équipe apprend et progresse en continu. Donc, je mets en place des mécanismes qui permettent justement des outils de résolution de problèmes, de Kaizen, on fait beaucoup de Lean. Et on travaille toujours sur les sujets d'amélioration mesurable. Par exemple, Pauline, qui fait partie de mon équipe aujourd'hui, travaille sur comment on augmente le nombre de candidatures spontanées qu'on reçoit par semaine. C'est hyper concret. Il y a plein d'axes qui peuvent servir à faire ça. Et on travaille dessus tous les jours. J'ai des rituels pour challenger justement les différents sujets d'amélioration de chacun des membres de l'équipe et les aider à avancer.
Ok, très clair. Et donc, si tu devais le mettre à l'échelle d'une semaine.
Ouais.
Du coup, si tous ces objectifs, enfin voilà, si tu as une semaine un peu type, enfin c'est peut-être pas la bonne échelle de temps, hein, mais si on peut parler de semaine
la
type.
Semaine, c'est pas mal, ouais.
Ben voilà, tu lundi, enfin t'es pas obligé d'aller vraiment dans les détails, mais pour comprendre un peu les blocs de temps que prennent chacun de ces objectifs.
Ok. Je vais peut-être pas te faire le planning lundi, mardi, mercredi, non. Parce que en vrai, d'une semaine à l'autre, ça n'a rien à voir. En revanche, dans une semaine type, bah il y a des rituels. Donc j'ai l'équipe, on a un daily tous les matins, daily stand-up. À la manière d'une équipe agile en fait, où l'idée c'est de se challenger entre nous sur où on en est, notre perf, quels sont les next steps de la journée pour réussir notre journée, notre semaine, nos objectifs. J'ai des weekly donc de coaching avec chacun des membres de l'équipe. J'ai moi-même un weekly coaching avec Baptiste, le CEO. Donc il y a pas mal, voilà, quelques rituels comme ça. Et puis il y a beaucoup d'opérationnels, process de candidats à gérer. Les sujets d'amélioration continue de l'équipe sur lesquels je travaille. Donc, il y a comment on améliore notre process, comment on améliore. Il y a plein de sujets comme ça qui arrivent un peu d'une semaine à l'autre. Des calls avec des candidats pour identifier si ça a du sens en fait qu'on se rencontre, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Gérer les relations avec nos. Après, il faut aussi gérer les relations avec nos différents partenaires, les cabinets, les écoles. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a aussi pas mal de temps pour identifier et prendre contact avec des candidats, ce que je fais encore, moi, de la prod, autant au sens du sourcing, des process, etc.
Donc ça, c'est un métier sur lequel tu es venu un peu par le hasard de...
le hasard des opportunités. Et puis, par la suite, je me suis vraiment découvert une vraie passion, en fait, pour ce métier que j'envisageais pas forcément.
Tu vois, si on devait parler un peu de compétences... clé pour faire donc du recrutement et surtout du recrutement chez BAM. Donc tu gères plein de sujets en même temps, donc je pense que à rigueur l'organisation en fait partie, mais si tu veux très brièvement me parler de hard skills, soft skills comme on aime.
Hard skills, soft skills. Alors les hard skills, savoir mener un entretien ou un call, ça s'invente pas. Pas mal de gens ont l'image de l'entretien où en fait c'est une espèce de discussion sans vrai fil conducteur. Si on veut être capable de prendre des décisions qui tiennent la route et qui sont les bonnes pour nous comme pour les candidats, c'est hyper important. Bien évidemment, comprendre en profondeur les enjeux de la boîte dans laquelle tu te trouves, parce que en fait le métier que j'exerce aujourd'hui chez BAM, c'est pas du tout les mêmes problématiques que dans d'autres boîtes. Savoir avoir une vraie appétence pour les indicateurs et le pilotage des indicateurs. Il y a plein de chiffres en fait. Plein d'analytics qui sont hyper intéressants pour analyser justement la performance de l'équipe, être capable de synthétiser et résoudre des problèmes complexes, parce qu'un process candidat, c'est toujours plein de défis, parce qu'en fait, il y a toujours des problèmes. Celui-là, je l'aime bien aussi, savoir synthétiser et partager les connaissances générées par l'équipe. Parce qu'en fait, on utilise Notion, nous. Et le but du jeu, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on apprend un truc, il faut que ce soit pérennisé, il faut qu'on ait écrit quelque part. Et donc, on a des standards qui permettent après d'accélérer la formation et puis surtout, en fait, de devenir meilleur tout le temps. Savoir faire une matrice de compétences, ça, c'est hyper important. La suivre, c'est hyper important. Pour soi et pour les membres de l'équipe aussi, pour justement être capable de les aider.
Je rebondis sur ce que tu viens de me dire de... les problématiques que tu as chez BAM sont forcément très différentes de celles d'une autre entreprise. Mmh. Est-ce que tu as un avis ou de la visibilité sur le fait que ton métier soit différent de tes homologues dans le secteur, donc soit déjà pour des agences, pour des boîtes de conseil, mais aussi plus généralement pour l'écosystème tech.
Ouais.
Comment est-ce que tu vois la spécificité d'une part de ton métier, mais peut-être aussi de BAM,
ouais,
de ton métier aujourd'hui chez BAM par rapport aux autres, un autre Head of Talent Acquisition
Alors, je n'ai pas vraiment de référentiel. Je n'ai pas été Head of Talent Acquisition dans une autre boîte qui aurait été une boîte produit ou une autre boîte de service. Donc, j'ai assez peu de visibilité. Ce sur quoi je peux me baser, c'est les retours des candidats qu'on obtient régulièrement, que ce soit moi ou les membres de mon équipe. Et en fait, c'est l'approche du job qui est différente. D'accord. Et c'est ça qui me plaît énormément aussi, en fait, dans la manière de le faire. On n'est pas là pour closer des personnes, pour les éliminer un peu comme si on jouait au qui est, tu vois. L'idée, c'est on est là pour les aider. On est là, on recrute pour les aider à trouver leur voie. Beaucoup de personnes qu'on recrute sont des jeunes deep, à fort potentiel, certes, mais qui en sortant d'école, en fait, sont un peu perdus, comme tout le monde. Et parce qu'il y a plein de possibilités. Et mon job, et le job de toute l'équipe, en fait, c'est de challenger suffisamment ces personnes pour définir avec eux la meilleure décision à prendre pour le début de carrière. Pour leur début de carrière, que ce soit chez BAM ou non. Et si c'est chez BAM, tant mieux, et ça fera que la personne, elle s'épanouit dans le job. Si c'est pas ça, c'est pas mort d'homme. Hein. Mais, et c'est pour ça que pendant tout le process, et c'est un truc qui est pour le coup assez original, chaque recruteur, en fait, suit son candidat. À partir du moment où le premier entretien est passé, le recruteur devient coach du candidat. D'accord. On lui fait les débriefs en live après chaque entretien, et on le brief, ou la brief, pour tous les entretiens, en donnant des tips, en faisant des retours, ça va, ça faut que tu progresses là-dessus. Et en fait, ça permet d'avoir d'une part un process qui est très sûr, parce que si la personne progresse entre deux entretiens sur un point de coaching, bah on est hyper rassuré sur le fait qu'elle progressera super vite chez nous. Et ça permet aussi d'avoir un process qui en fait apporte énormément de valeur au candidat. Moi j'ai pour donner un exemple, mais ça m'avait, même moi j'étais scié, j'appelle un candidat, c'était un biz dev, il était allé au bout du process, il avait vu Baptiste, Marek, et on avait finalement décidé de pas lui faire de proposition. Et bon, ça arrive, et je l'appelle pour lui annoncer ça, et dans le même call il m'a dit, écoute, en tout cas vraiment merci, j'ai appris un milliard de trucs, d'ailleurs j'ai un pote, je pense qu'il pourrait mieux matcher que moi, est-ce que je peux te filer son CV. J'étais au téléphone avec lui une minute avant pour lui dire, en fait, on va pas te faire de propre. Ouais. Et ça, c'est ouf. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier, quoi. C'est parce qu'on aide les gens et qu'on leur apporte de la valeur.
Ouais, et si tu pouvais me redétailler un peu les étapes du process, justement, bah, il y a un peu la mentalité, la méthodologie que vous appliquez donc, pour mener vos entretiens, qui est vraiment très unique chez BAM. Mm-hmm. Mais tu vois, pour comprendre un peu mieux, bah, je candidate voilà, sur le site, je suis là. Enfin, tu m'as parlé de call tout à l'heure, tu m'as parlé de rencontre, enfin, pour comprendre un peu le process. Et comme tu dis, à chaque fois, c'est on te donne un conseil, on te prépare pour le prochain entretien, on te coach, tu vois, pour replacer un peu le fil.
Alors, ça dépend beaucoup des profils, évidemment. Bon, compte tenu de l'audience de vocation, on peut peut-être parler du profil plutôt bizdev.
Ouais.
Donc, le bizdev, soit on source la personne, soit on la rencontre à un forum. Enfin, en tout cas, voilà, on a un premier contact avec une personne. Un ou une candidate, et il y a un premier call. L'objectif du premier call, c'est vraiment de creuser avec la personne où elle en est, ce qu'elle envisage pour la suite, ce qu'elle a envie d'apprendre, pour en fait juste valider que ce que l'ambition de la personne est parallèle avec le parcours de progression chez BAM, en fait. Que le job chez BAM va rapprocher cette personne de son objectif. Parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien de prendre un taf qui te rapproche pas de ton objectif, mais bon, mais ça, on va en reparler après. Une fois qu'on se rend compte qu'il y a un match, il y a un premier entretien, donc avec la personne qui a fait le call, que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe, qui est un entretien où effectivement en une demi-heure de call tu peux pas creuser autant. Donc généralement à la fin du call on fait des premiers retours, précise ça, réfléchis à ça, parce que voilà, ça va être important pour moi en entretien et de motivation / fit. Et il faut que t'aies avancé, sinon bah en fait on va avoir du mal à déterminer ensemble si encore une fois ça a du sens qu'on avance. Donc l'entretien dure une heure et demie, où l'idée c'est d'aller encore plus loin dans ce qui a commencé à être évoqué en call. Donc l'ambition, pourquoi le candidat est là, en quoi ça a du sens pour lui, ce qu'il veut apprendre, ce qu'il veut faire super concrètement, hyper important d'être super concret. Et puis il y a une simu commerciale. Mmh. Et puis c'est un moment aussi. Tous les entretiens sont au moment pour le ou la candidate de se faire une idée aussi, de choisir. C'est vraiment à double sens. Et donc, il y a tout un moment aussi où on pitch vraiment le rôle, comment ça se passe, la manière dont on bosse, l'agile, etc. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu obscur comme ça. Mais voilà, on détaille vraiment comment ça fonctionne. À la suite de quoi, dès la fin de l'entretien, en fait, au bout d'un moment, on arrête la discussion et on débrief. Donc, le candidat... moi, je demande toujours au candidat ce qu'il a pensé de l'entretien, de sa prestation, de ce qu'on s'est dit. Et après, moi, je débrief en disant, bah voilà, les points positifs, les points d'amélioration, ce sur quoi tu peux progresser. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas, évidemment. Et si ça passe, je lui dis, bah ok, alors après, tu rencontres Laure, la directrice commerciale, ce qui est important. Et là, j'enchaîne directement sur briefer pour l'entretien suivant.
D'accord. D'accord.
Avec les points d'attention, progresse là-dessus, je donne des tips, soit peut-être plus concis, parce que c'est hyper important pour être impactant, parce que ton client, souvent, il n'a pas le time. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'être efficace. Donc, c'est la concision est quelque chose d'hyper important pour nous. Des tips pour progresser là-dessus, par exemple. Enfin, voilà, il y a un vrai accompagnement. Et après, moi, je brief la personne, donc en l'occurrence, Laure, Head of Sales. Je la brief en disant, bah voilà, tu vas rencontrer un tel. Donc voilà les points d'attention, les trucs cool, les points d'attention, etc. Et après l'entretien, donc l'entretien se passe, après l'entretien avec la Head of Sales, moi je prends le débrief à chaud, donc dans la demi-heure qui suit, avec Laure. Et ensuite, je vous rappelle, alors soit le candidat est resté dans les locaux, soit je le rappelle, enfin voilà, je fais le débrief en disant, bah voilà ce qui s'est passé, voilà les points qui étaient cool, voilà tes points d'amélioration, on passe à la suite ou non. Et on enchaîne comme ça, et donc ça se passe à chaque fois comme ça. Et pour refaire le process un peu rapidement, il y a call, premier entretien avec moi, entretien avec Laure ou Guilhem, Head of Sales ou Head of Existing, un entretien avec Baptiste, le CEO, et un entretien avec Marek, le CTO. Et à la suite de quoi, on cale direct aussi le rendez-vous de proposition. Et l'idée, c'est que... alors, il y a deux trucs. C'est qu'en fait, le rendez-vous de proposition, le process est réussi et c'est un moment de win déjà, plutôt cool, pendant lequel Baptiste, le CEO, donc, prend le temps de présenter tous les aspects matériels du poste.
Et si, parce qu'on a là, on a parlé beaucoup de ça, d'esprit, d'accompagnement, de c'est quoi bosser chez BAM au quotidien en dehors de la mission plus technique, enfin, si on parle de compétences du coach agile, de technique, de design. Si on devait parler de plus de spécificité, un peu de rituel, un peu le... Tout ce qui n'est pas du boulot, quoi.
Ah, tout ce qui n'est pas du boulot.
Tout ce qui n'est pas du boulot. D'accord. Qu'est-ce qui fait un peu l'ADN BAM en dehors de je fais vraiment mon job et je vois mes coachs, etc. Mais vraiment sur le extra...
Alors, ce qui fait l'ADN BAM... alors, l'ambiance, c'est un peu nul comme réponse, mais en fait, il y a vraiment une bête d'ambiance. Et en fait, une ambiance surtout extrêmement, extrêmement, extrêmement bienveillante. La moindre personne chez BAM... ne manquera jamais une occasion de te challenger de manière super bienveillante pour t'aider. File un coup de main sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'en fait, on se sent poussé, tiré vers le haut par les dirigeants, poussé par tout le monde. Et c'est hyper agréable. Comme je disais, la moyenne d'âge est de 26 ans. Donc, je commence à faire partie des vieux, mais du coup, c'est quand même hyper sympa. Et puis en fait, alors après, ça, c'est vraiment un jugement super personnel, mais je trouve ça hyper précieux. Il n'y a pas une personne dans la boîte que je trouve même moyennement smart en fait. Que des gens super forts, et donc c'est hyper intéressant. Alors ça fait un peu le mec qui se jette des fleurs à lui-même, mais voilà, je considère vraiment beaucoup de gens comme beaucoup plus forts que moi et qui m'apportent énormément, donc c'est hyper intéressant.
Ok. Petite question, comme tu disais, matérielle ou financière, je t'ai pas posé la question, mais pour avoir une idée de la grille de salaire, déjà la tienne, mais aussi un peu l'évolution que tu as en interne quand tu rentres en tant que coach agile, enfin restons sur le métier de coach agile.
La mienne, alors si c'est celle sur le métier de Head of Talent Acquisition, je t'avoue que je sais pas trop et que d'une boîte à l'autre, à mon avis, ça peut être des gens qui prennent 50 comme des gens qui prennent 80, 90, 110 plus. Enfin voilà, selon la boîte, le truc, donc... je sais pas si ça a beaucoup de valeur. Pour ce qui est du job de BizLab, en fait, il y a une grille, tout simplement, qui se base sur l'école et l'XP post-diplôme. Voilà. L'idée, c'est de commencer aux alentours de 40.
Ouais.
Et après, on valorise les années d'XP en dehors de BAM, d'une certaine manière, enfin, voilà, qui permettent d'être aligné avec le marché, en fait, au fur et à mesure. Et en interne, il y a un système de up. On a quand même une boîte d'info de tech, donc on va le level up histoire d'eux. Mais non, l'idée, le système de up, c'est que il y a des critères hyper carrés de niveau d'amélioration continue. Donc il y a des niveaux de kaizen, nombre de recrutements par exemple, de satisfaction client sur les projets. Voilà, des trucs super carrés. Et donc l'idée, c'est d'avoir il y a deux sessions par an, et de présenter un dossier et d'avoir une soutenance avec des gens expérimentés. Soutenance, c'est vraiment c'est comme un méga coaching en fait. Ça permet d'avoir plein de gens plus expérimentés, plus forts que soi en face, qui coachent à balle. Et l'idée, c'est qu'après, à la suite de la soutenance, on l'a ou on l'a pas. Et dans le cas où on obtient son up, on passe de rookie à pro, à challenger, à director pour les biz dev. ça génère un bump de salaire.
D'accord.
Ce qui est hyper important, c'est que ça ne conditionne absolument pas la prise de responsabilité.
Mmh. Ok, ouais, c'est vraiment plus une sorte de mise à plat de là où j'en suis.
C'est complètement décorrélé.
Mmh. Et toi, donc, comment est-ce que tu te vois évoluer pour, avant de rentrer plus dans une phase peut-être de conseil, de décortiquer là, tes conseils plutôt candidat,
ouais.
Comment appliquer un peu cette méthodologie que tu appliques en entretien là pendant, pendant le podcast.
Ouais.
Mais toi, comment est-ce que tu te vois évoluer ? Donc là, déjà, tu as un poste qui a beaucoup évolué avec beaucoup de prise de responsabilité, ouais, et un peu de spécialisation et d'expertise, ouais, que tu as pris. Quelles sont pour toi les prochaines étapes ? Bon, ça peut être à moyen, à long terme, où est-ce que tu, ouais, te vois aller ?
Encore une fois, c'est pas nécessairement un métier que je me voyais faire quand, ouais, quand j'ai débarqué chez BAM, mais c'est un métier pour plein de raisons qui me passionne. Mon plan, c'est de continuer à progresser dans ce job en fait. J'ai encore énormément de marge, c'est hyper stimulant, et BAM a des ambitions super fortes de croissance. Donc mon objectif, c'est quand tu arrives à un certain stade, le but du jeu, c'est faire grandir ton équipe, mm, pour que les enjeux deviennent de plus en plus de plus en plus management, de plus en plus avec des perfs de plus en plus élevés, de prendre encore de l'envergure dans ce job là
ouais.
Donc les gros défis, c'est quoi? C'est structurer et faire grandir mon équipe,
mm,
pour permettre cette croissance,
ouais,
parce que faire 30% à 80, c'est pas du tout faire 30, pareil que de faire 30% à 120 ou 150 ou 200, c'est pas du tout le même volume d'affaires. Et donc aujourd'hui, moi, mon plan, l'objectif, il est de continuer à grandir avec BAM.
Ok, très clair. Très clair. Et donc, pour résumer un peu tout ton métier, tout, ouais, ce qu'on a abordé, si tu devais me dire un peu en un point, est-ce que tu adores, est-ce que tu détestes dans ton, ouais, métier ? Déteste, c'est peut-être un mot un peu fort, mais tu m'as compris, ce que tu aimes moins. Si, ouais, tu devais me dire un point pour chaque.
Alors, moi, en fait, je vais revenir un peu à ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure pour ce que j'adore dans mon métier. En fait, c'est à quel point j'aide mes candidats et ma boîte. J'aide ma boîte à grandir en recrutant les bonnes personnes au bon moment, et c'est hyper satisfaisant. Et j'aide mes candidats parce que je les challenge à fond, mais toujours de manière super bienveillante. Et en fait, l'idée, c'est d'être convaincu qu'ils prennent la bonne décision. Passer les entretiens chez BAM, ça apporte de la valeur, des apprentissages à tous les candidats, et c'est des retours qu'on a en permanence, et même ceux avec qui ça le fait pas. Et en fait, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure
du candidat qui
m'envoie son pote. Et en fait, c'est ultra satisfaisant parce qu'on a ça permet d'avoir un impact super positif sur toutes les personnes qu'on rencontre, quoi. Que ce soit la boîte. Et c'est un mindset qui m'a surpris au début quand je suis arrivé. On m'a dit, en fait, c'est quoi ton métier? C'est quelqu'un qui me formait dans M33 qui me disait, c'est quoi ton métier? Je dis, c'est de recruter et tout. Il dit, non, c'est d'aider. Et c'est un mindset que moi, je matraque tout le temps à mon équipe, etc. Parce que c'est fondamental si on veut bien faire ce job, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a, sans faire le tireur d'alarme, mais je pense qu'il y a plein de boîtes ou de secteurs dans lesquels c'est mal fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas une super image.
Mmh. Et est-ce que tu aimes moins ce que tu détestes ?
Est-ce que j'aime moins ? Pas être à la perf, en fait. C'est hyper frustrant. C'est frustrant parce que c'est dur. Et en même temps, c'est nécessaire. C'est-à-dire que si ça me saoulait pas, ou si ça saoulait pas tous les membres de mon équipe de pas être à la perf, faut faire autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça qui te, c'est le côté un peu, t'as un whiteboard à côté de, dans l'open space, à côté du bureau partagé de l'équipe GT, et puis t'écris un chiffre en haut du whiteboard en début de trimestre, et faut avoir envie de courir après pendant 3 mois, et puis après tu remets à jour et recourir après. Mais c'est ça. Mais juste, c'est frustrant, c'est énervant. Mais c'est ça qui permet de se mettre des coups de pied aux fesses aussi.
Ok. écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme tu dis.
Ouais.
Pour revenir un peu à cette phase de conseil, enfin, on a un peu parlé, donc de partager un peu toi ce que tu as appris en tant, ouais, que recruteur. Tu vois, donc tu as fait un peu le parcours école de commerce, entrepreneur, consultant, coach, enfin coach agile, disons.
Je considérerais pas ça comme consultant, mais ok.
Coach agile, disons, et puis après RH. Enfin, ou Head of Talent Acquisition, pour découvrir un métier qui, entre guillemets, n'est pas du tout mis en avant pour des étudiants, notamment d'école de commerce.
Assez peu.
Quel serait ton conseil à ceux qui disent, recruter, ça pourrait vraiment m'intéresser. Là, je me pense plus sur des métiers de commerciaux parce que c'est mieux vu, etc. Mais tu vois, sur les idées reçues un peu du métier, des métiers dans la RH et notamment dans les boîtes tech. Et comment identifier, tu vois, c'est fait pour moi et ça me plairait.
Il faut différencier, je pense. RH, c'est assez générique, oui, mais dans le RH, il y a toute une partie aussi qui est par ailleurs fondamentale, mais qui ne fait pas partie de mon job aujourd'hui, qui est la partie gestion des gens qui sont là. Oui. People, alors ça peut s'appeler Chief Happiness Officer, ça peut avoir plein de nomenclatures, mais l'idée c'est de prendre soin des gens qui sont déjà là, qui aujourd'hui ne fait pas partie de mon job. Première voilà, précision rapide. Après, c'est vrai que c'est un métier qui n'a pas la cote en école. Et moi, je trouve ça hyper dommage parce que, et j'étais pareil, hein, mais parce que c'est tellement stratégique. Alors évidemment, dans une boîte comme BAM, où la croissance passe par le recrutement, mais même dans n'importe quelle boîte, en fait. Une boîte qui vient de lever énormément d'argent, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? C'est recruter 200 personnes. Bah, il vaut mieux pas se planter, en fait. Et c'est fondamental pour la suite des événements, c'est de recruter une équipe, en fait. C'est capital dans la construction de la boîte. Et c'est aussi un métier qui est super difficile. Et en fait, moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant, en fait, parce que ça allie les soft skills, les hard skills, comme peu de métiers le font. Il y a énormément d'humains. Et en même temps, il faut arriver à mettre un rationnel énorme derrière l'humain, dans la manière dont, en fait, chaque question en entretien doit avoir un but précis avec une réponse attendue. Mais en même temps, il faut être capable de le moduler. Donc, c'est passionnant. Ça demande beaucoup de recul sur la boîte dans laquelle tu es, en fait. C'est quoi les besoins? Comment tu fais matcher tel ou tel profil avec les besoins que tu as dans ta boîte? Et en fait, les entretiens, quand ils sont bien conçus et quand ils sont bien faits, un process, c'est hyper scientifique. On a un peu l'impression que les gens se font ça par-dessus la jambe. Et c'est l'impression que j'ai eue, moi, quand j'ai passé des entretiens, je me suis dit, mais à quel moment ils vont pouvoir prendre une décision après la discussion qu'on vient d'avoir, tu vois? Et en fait, ça... Avoir une démarche qui est scientifique et qui en même temps est ultra focus sur justement apporter de la valeur à la personne qui est en face de toi, ouais. Et pas juste prendre les infos dont tu as besoin pour après les rentrer dans ta spreadsheet, c'est hyper important. Il y a encore aujourd'hui une très mauvaise... Enfin, je l'évoquais à l'instant parce que j'en ai fait l'expérience, mais des entretiens où tu n'as pas de débrief, tu n'apprends rien, ça ne t'apporte aucune valeur. Enfin, je veux dire, il faut changer ça et je pense que c'est hyper important. En tout cas, moi, je suis hyper heureux de le faire.
Ok, ouais, donc c'est ça, c'est un peu le challenge de...
le challenge de prendre un métier qui n'est pas toujours bien fait et de le faire bien, peut-être, mais surtout le côté strat, quoi.
Mmh. Ouais. Et donc, dans quel genre d'entreprise, enfin, tu vois, sur les conseils de comment tu choisis ton entreprise,
ouais.
Du coup.
Ok, ah oui, sa boîte.
Sa okay. boîte. Donc, si par exemple, là, je dis, bah, je t'écoute et je me dis, ok, c'est hyper stratégique, ça m'intéresse, il y a un énorme challenge sur des postes de talent, enfin. Ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Mmh. Ok, dans quel genre d'entreprise est-ce que je peux le faire? Pourquoi pas BAM? Mais pour toi, c'est quoi les questions à se poser pour identifier? Donc toi, tu parlais de croissance tout à l'heure dans tes choix à toi, mais est-ce que c'est toujours ce que tu conseilles aux candidats?
Alors, en fait, il y a un truc qui est beaucoup plus générique que ça. C'est que, et surtout quand on sort d'école, on est tous un peu perdus. Voilà. Et pour bien choisir son job et la boîte dans laquelle on va faire ce job, il faut prendre du temps sur soi. Moi, la première question que je pose... que ce soit en call, en entretien, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Et quand la personne me dit « Ah ouais, non, parce que je trouve que BAM, ça pourrait matcher avec ce que je veux faire, etc. » Je dis « Mais en fait, on s'en fout pour l'instant, oublie. Qu'est-ce que toi, tu veux ?» Et en fait, il faut réfléchir à ce que chacun, individuellement, on veut. Avoir une étoile du Nord, un objectif, ça peut être un job, une boîte, je veux rentrer chez Google. Voilà, ça peut être un truc. Et qu'est-ce qui va m'en rapprocher? Un secteur, une personnalité qui nous inspire. Et en fait, l'idée, c'est pas de faire un plan quinquennal dont on bougera jamais. Ça marche pas pour faire pousser du blé au Kazakhstan, ça marche pas pour piloter sa carrière. En revanche, une fois que tu as cette étoile du Nord, ça te permet d'avoir un plan. C'est pas facile à déterminer le plan, mais ça permet de faire un plan et d'identifier, ok, c'est quoi les étapes et les compétences qu'il me manque pour atteindre cet objectif. Et en fait, l'idéal, c'est quasiment d'arriver à une checklist. Bah voilà, moi, mon objectif, c'est d'être lead dev dans 3 ans. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je progresse à fond techniquement. Faut que je fasse de la tech. Faut que j'apprenne à manager une équipe. Faut que j'apprenne à gérer un client. Faut que j'apprenne à travailler avec des designers. Faut éventuellement que j'apprenne à recruter des gens pour mon équipe. Il peut y avoir plein de trucs. Ça dépend après de la vision qu'on a du rôle de lead dev. Mais l'idée, c'est qu'en fait, une fois que tu as ça, bah, c'est hyper facile de la confronter avec des offres d'emploi. Et ça, ça a 2 vertus en fait. La première vertu déjà, c'est que ça permet de ne rencontrer et de ne postuler qu'à des jobs qui sont intéressants, qui potentiellement pourront te rapprocher de ton objectif. La deuxième vertu, c'est d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus convaincant pour la personne en face. Moi, ou les personnes de mon équipe, ou les gens que tu rencontres. Parce qu'en fait, si tu arrives à établir de manière super concrète et super claire le parallélisme entre ton ambition, ce que tu veux accomplir, et le parcours de progression de la boîte dans laquelle tu postules, mais il n'y a plus de problème. Allons-y.
T'es au bon endroit.
Parce qu'en fait, et surtout, c'est d'autant plus important que si tu rejoins un job qui te rapproche de ton ambition, tu as envie de te lever le matin, tu t'épanouis, tu réussis en fait dans ton job. Et donc, je reviens sur le fait que c'est hyper important pour nous en entretien, je parle beaucoup d'ambition avec mes candidats, parce qu'en fait, moi j'ai tout intérêt derrière. Déjà pour le candidat ou la candidate, c'est de la balle parce qu'elle trouve le, il ou elle trouve le bon job pour lui ou pour elle.
Ouais.
Et derrière, bah, si c'est le bon job, c'est une personne qui réussit ouais. dans la boîte. Ouais. Donc c'est tout bénef. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, je ne vois pas de downside en fait à ce truc.
Ok, très clair. Et donc si on devait, enfin s'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir, c'est vraiment celui-là. Te poser la question.
C'est en fait, ok, moi aujourd'hui, enfin moi qui sors d'école, au moment où je pars, la fleur au fusil, monter une boîte, où ça a été dur, on en a bavé, enfin ça a été vraiment compliqué cette expérience aussi. J'ai appris plein de trucs, mais ça a été vraiment vraiment dur. J'aurais aimé qu'on me dise, attends mon petit pote, là, calme-toi, pose-toi, prends une feuille de papier et ok, c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qui va t'aider à t'en rapprocher. Et peut-être que j'aurais fait des choix différents. Je regrette pas aujourd'hui les choix que j'ai faits, mais c'est ça en fait. Et puis en plus, ça évite des entretiens ou dans des boîtes qui finalement ne t'intéressent pas parce que
tu peux perdre du temps à tout le monde. Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est un très bon conseil. J'invite tout le monde à se prêter à l'exercice. Et puis comme tu dis, ça permet, d'être en appel, en entretien, voilà, et savoir exactement où on va et pas de tourner autour du pot, faire un peu de la vente.
Moi, les candidats ou les candidates qui pour qui c'est super clair et avec qui ça match, bah en fait je me projette de ouf. Même moi en tant que personne, de bosser avec eux, qu'ils soient parce que je me dis ok, c'est sûr, ils vont s'épanouir et ils vont être bien et c'est ça le but du jeu. On a là tous la chance, diplômés d'école, etc. A priori, d'être dans une position où on peut choisir notre taf, autant en profiter. Tu vois.
Oui, carrément. Très bien, je te propose de finir avec mes deux questions fétiches de la fin. La première, c'est si tu voulais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre, donc on en a déjà beaucoup parlé, mais si tu devais me le dire
en 30
secondes.
Je pense que les auditeurs ont compris que j'aime mon taf. En 30 secondes,
ouais.
Je pense que je vais faire même un peu plus rapide que ça. Je suis au cœur de la croissance de ma boîte, je ne le répéterai jamais assez. J'aide de vraies personnes à un moment dans leur vie qui est décisif au moment de changer de job. Et je le fais dans une boîte avec une équipe dans laquelle, j'ai confiance et qui me pousse à devenir meilleur tout le temps.
Très bonne réponse. Parfait. Voilà. Et si tu devais me raconter une bourde, une erreur, quelque chose qui t'est arrivé au boulot ?
Oh, j'en ai une belle. En fait, l'idée, c'est que quand on a Là, j'avais une candidate qui avait postulé chez Tech. Et en fait, l'idée, c'est que pour shotgunner, ne serait-ce que pour shotgunner du temps dans les agendas de tout le monde, on cale tous les entretiens, quels que soient les résultats, pour gagner en... pour que ça soit plus condensé en plus et que au moins c'est bloqué quoi, dans les agendas. Bon. Et au moment où je lui ai envoyé le planning, je fais une fausse manip et dans ce planning-là, il y avait un événement qui était dans l'agenda, mais qui était pour qu'un architecte développeur de chez BAM relise le code qu'elle nous avait envoyé. Mais c'était un truc, elle n'avait pas besoin d'être là en fait. C'était un créneau juste pour avoir du temps de l'archi pour qu'il puisse faire ce truc. Et en fait, moi quand je lui ai envoyé le planning, je lui ai envoyé ce truc-là aussi, cet événement-là. Donc en fait, elle est venue. Elle était en poste, elle a bougé de son taf, elle est arrivée chez BAM et la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'étais en vacances, tu vois. Ouais. Donc c'est pas mal, personne pour l'accueillir, t'es où, qu'est-ce que tu fais, c'est quand mon entretien, en fait, on t'attendait pas avant demain. Enfin, c'était terrible. Donc heureusement, quelqu'un de l'équipe a réussi à me joindre et je me suis platement excusé. Je pense une bonne quinzaine de fois, elle m'en a pas voulu par la suite. mais c'est vrai que je me suis pas senti super malin quand on m'appelle en me disant « Ah, il y a ta candidate qui est là, pardon ».
moi je suis pas là.
Moi je suis pas là et en fait, tu devrais pas être là non plus, donc c'est bizarre. Voilà.
Ok. Bon, ça arrive. Faut juste vérifier toujours les invitations.
Ouais. Non, mais voilà. Donc c'était un peu. Je me suis senti un peu idiot.
Écoute, Louis, je pense qu'on a fait le tour un peu de la majorité des sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'on a peut-être un peu moins évoqué, que tu as envie de.
C'est une bonne question. Non, là je pense qu'on a. J'ai beaucoup parlé en tout cas. Moi qui vantais la concision tout à l'heure. Mais, mais non, je pense pas.
Ok, parfait. Bon, merci beaucoup.
Pas de souci. Merci à toi.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair dans l'océan des métiers possibles. Pour aller plus loin, abonne-toi à notre newsletter et reçois tous les mardis une fiche métier ainsi que les ressources de nos invités directement dans ta boîte mail. Rendez-vous sur Instagram @vocation.co pour suivre nos aventures. On poste du contenu tous les jours pour t'aider à mieux comprendre le monde professionnel. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait aider.
C'est ce qui nous aide vraiment le plus à se faire connaître et ça fait la différence. À la semaine prochaine !